Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Aujourd'hui, nous sommes sur la terrasse du Café des Lys et nous sommes attablés avec Germaine. Germaine, bonjour.
Bonjour.
Alors, Germaine, vous êtes une personnalité de la ville, même si vous vous en cachez.
Non, je suis simplement Adi depuis 60 ans et un point c'est tout. Mon quartier c'est le quartier de Saint-Marcel avec ses gens simples et des gens de valeur, grande valeur.
Et vous êtes ici depuis combien de temps sur 10?
Eh bien, j'ai épousé le coquetier de la place du Mazel et puis j'ai élevé une famille et ça fait 60 ans.
Un coquetier, c'est quoi?
Le coquetier, c'est un leveur, c'est un commerçant qui a un véhicule et qui va dans les trois cantons du Haut-Diwa et qui achète les produits de la ferme. Quand je suis arrivée en 63, il y avait énormément de fermettes avec une production très variée qui partait des poulets, de la production de noix, de chevreaux. Et donc, ce commerce consistait à aller à domicile acheter les œufs, les chevreaux, les noix, les escargots, les coings, la lavande. Voilà, c'est le Diwa qui était producteur et qui n'est plus comme c'était parce qu'on n'arrête pas l'évolution du monde. Voilà. Et je suis bien contente d'avoir résisté.
Bon, vous avez rencontré un coquetier, donc...
J'ai rencontré un homme d'une grande noblesse, c'est-à-dire une grande honnêteté, un grand courage et une conscience comme toutes ces familles protestantes du Diwa. Originaire de Valdrome et de Saint-Julien-en-Quin, des gens qui ne se sont pas compromis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà, je suis restée à Die parce que j'ai aimé ce peuple. Le peuple, surtout le quartier Saint-Marcel, où on a petit à petit vu arriver les touristes et ça nous a fait un grand bien, ça nous a sorti un peu de notre isolement.
Qu'est-ce qui existait à l'époque pour les touristes sur Die?
Ça dépend, dans les années 60-62 quand je suis arrivée, non, c'était les gens, les vieilles familles dont les enfants étaient sur Lyon, Grenoble et tout ça, qui venaient chaque année au mois d'août. Et les Hollandais ne venaient pas en vacances ici. Il y avait 3-4 familles qui se sont installées à Vachère, à Bellegarde. Et ça a été notre grande chance au Diwa, parce que ces gens-là sont venus avec des idées nouvelles, en toute modestie et en toute amitié, et le Diwa s'en est trouvé transformé. Je parle des réalisations, c'est-à-dire rénovation des vieux villages abandonnés comme Vachère, et puis aussi sur Die, la création du championnat de courir en montagne, mondiale, c'est-à-dire que nous avons vu sur 10 courir des Kenyans, des Colombiens, femmes et hommes, et que c'était, pour nous, ça a été extraordinaire. Et la même personne, la même équipe, avec les Diwas, ont créé le Festival du Pied d'abord, et ensuite le titre s'est transformé, un pied à l'est, un pied à l'ouest, parce qu'il y a eu la suppression du mur de Berlin. Et là, nous avons accueilli absolument tous les pays de l'Est, à commencer par la Tchécoslovaquie. Et ça a été pour nous extraordinaire. C'était un échange de tout ce qui existait dans les pays, c'est-à-dire la production agricole, les sports, les arts picturaux, la musique, les groupes folkloriques. Ça a été un émerveillement. Il y a eu même des mariages par la suite, des rencontres de jeunesse, et on a vécu à 10 l'Europe. Je vous signale aussi que dans l'organisation, il y avait une préparation considérablement sérieuse, c'est-à-dire que des Diwa bénévoles avec la... Est-ce que je peux dire le nom de la personne du Hollandais qui a... C'est Ton Vink, notre grand Ton Vink, modeste et merveilleux de... avec Madame Marilk et ses enfants. Des gens qui ont rénové en toute modestie le Diwa qui stagnait un peu, qui savait pas très bien comment sortir de l'absence d'emploi pour notre jeunesse, puisque les usines fermaient les unes après les autres. Bon, il n'y en avait pas beaucoup, il y avait les meubles et puis il y avait la bonneterie. Donc, grâce aux Hollandais et ceux de Bellegarde qui ont été les premiers à ouvrir un magasin de produits bio, ça s'appelait Mandala.
Et c'était en quelle année?
Je ne suis pas très forte pour les dates. Je pense que c'était en 70-72, par là. Et donc, l'établissement à Bellegarde s'appelait Le Gîte à l'époque, quand ces gens-là ont acheté. Et ça s'est après appelé Chantala après. Et donc, avec des cours de cuisine bio-végétarienne. Et la notion de bio, on le doit à ces gens-là. Oui, la notion de culture biologique et tout ça, c'est venu progressivement. Tant que Tom Vink avait étant sur Vacher et sur Di, avait des contacts, c'est quelqu'un qui est très sympathique. Qui expliquait aux gens qui demandaient comment ils cultivaient, qu'est-ce qu'ils cultivaient, tout ça. Et donc, avec une délicatesse infinie, il a fait évoluer les gens de la campagne, les producteurs, vers quelque chose de dépourvu de chimie. De toute façon, ici, ça risquait pas d'être saturé parce que la chimie, ça coûte cher, les engrais, ça coûtait cher. Et finalement, les gens étaient bio. Les gens étaient bio sans le savoir parce que c'était finalement des gens traditionnels. C'est-à-dire qu'il y a l'intervention des saisons, il y a l'intervention des pluies.
Et d'ailleurs, quel type d'agriculture existait sur Die à l'époque ?
Eh bien, selon les lieux, c'était très différent. Si vous prenez la vallée que je connais un peu plus, parce que nous avions de la famille là-bas, c'est la vallée de Quin, c'est la vallée large, riche. Eh bien, c'était l'élevage de bovillons, l'élevage de chèvres, ben ça c'est automatique. Donc les chevreaux pour le printemps. Les volailles, ben, autour de la ferme, ça c'est la tradition. Mais c'était surtout le veau sous la mer. Enfin, sur Saint-Julien-Quin, bien sûr, il y avait la production des foins. Très important, les foins, pour donner aux bêtes. Et vous savez, je ne suis pas fille de paysan, donc j'ai un petit peu du mal à faire des synthèses. La vigne, c'était surtout Barsac, Aurel, Ponté, Sainte-Croix. Alors ça, la vigne, là non plus, il n'y avait pas de saturation chimique. Non, pas du tout. Les gens avaient à cœur de faire la meilleure clairette, mais toujours en fonction de la pluie, du gel, de la grêle, etc., etc.
Et dans le bas d'Iwa,
la noix. Montlaur surtout, une grosse production de noix avec Minglon. Sinon, tous les petits propriétaires, quand on monte du côté du col de Menet, tout ça, chacun avait ses 5, 6, 10 noyers. Et c'était toute la famille qui ramassait les noix, qui avait les mains teintes pendant 2 mois. Et puis c'était très convivial. Et c'était... Je me rappelle avoir été avec mon mari dans ces familles, une espèce de simplicité et de respect du travail, respect du commerçant ambulant qui venait. Petit à petit, je me suis aperçue qu'il y avait une population digne d'être reconnue. Je venais de la Côte d'Azur, vous voyez le contraste. Et puis je ne parle pas du Vercors, mon mari allait aussi au Vercors. Et alors là aussi, chapeau, avec ce qu'ils ont vécu, le drame. Eh bien, moi je dis, vraiment, cette région est pleine de dignité de cœur. C'est pas riche ici, la terre est pauvre. Elle est riche des gens, de leur opiniâtreté à rendre la terre, à rendre le trésor que représente la terre, l'eau, la rivière. Ça a bien rempli ma vie d'émigrer. J'étais émigrée du département d'outre-mer et j'ai trouvé ici une raison de me battre pacifiquement avec les autres personnes de Die, parce qu'il y a eu des menaces. 30 ans nous sommes battus pour conserver la maternité, bien que nous étions à 70 km et toujours à 70 km de Valence, et on n'avait pas le droit de faire des enfants et de les mettre dans ce merveilleux hôpital équipé par des sages-femmes et du personnel soignant d'une grande, un grand professionnalisme et une grande humanité. Hélas, ça s'est terminé il y a 3 ans. Et c'est inacceptable.
Vous parliez tout à l'heure de la bonneterie. Qu'est-ce qu'on y faisait à cette époque-là ?
Eh bien, on tissait Monsieur Barral, donc au quartier de Méros, filait le coton et faisait des sous-vêtements. J'ai entendu dire que le principal client était pour les colonies, c'est-à-dire l'Algérie, l'Afrique, c'est-à-dire les sous-vêtements en coton blanc. Et donc c'était surtout pour la population de Die, pourvoyeuse d'emploi pour les femmes, les petites mains comme on disait à l'époque. Et c'était important parce que c'était des patrons paternalistes, bienveillants, des gens dans la tradition de Charles Fourier, c'est-à-dire le patron se comporte comme un père avec son personnel et d'autre part la région étant favorable au noyer, le bois du noyer était une valeur à l'époque. Celui qui dans sa propriété avait des noyers, les billes de noyer étaient répertoriées depuis leur croissance et ça représentait des sommes. Donc il y avait une usine sur la route de Romeyer et donc c'était pourvoyeur. Mon mari me disait que après la guerre de 14, il y avait jusqu'à 750 ouvriers. Parce que pendant la guerre de 14, exactement, si c'est 14, 15, 16, je ne sais pas, ils se sont mis à fabriquer, en dehors des meubles, des caisses pour mettre les cartouches, les balles. Il y avait une commande. Mais les meubles au droit, c'est connu dans la France entière. C'était vendu aux galeries Lévitant, à Paris. Donc, avec des sculpteurs, les sculpteurs sur le bois de noyer, dont certaines familles ont encore des véritables bas-reliefs d'une beauté représentant Henri IV sur son cheval, représentant des repas de paysans. Enfin, il y a encore chez les antiquaires de ces sculptures.
La filature aussi, est-ce que fut un temps où il y avait le verre à soie et les mûriers? Et qu'est-ce qu'il en était à cette époque-là déjà?
Plus rien, hélas. Dans la famille Bernard, c'est-à-dire la famille de mon mari, la grand-mère de mon mari, qui était de Vachère, elle était descendue de Vachère, c'était tout un événement. Parce qu'elle avait 3 filles et qu'il fallait les placer dans la vallée. Et c'était des protestants qui tenaient beaucoup à l'instruction. Donc ce sont des filles qui ont été au collège de Die. C'était une lettre de noblesse pour une jeune fille qui avait été au collège de Die. Parce que c'était des directions à Mademoiselle Chevalet. Je ne l'ai pas connue, j'ai connu sa réputation et puis tout ce pays était pourvoyeur d'instituteurs et d'institutrices. C'était dire que dans le milieu protestant l'instruction était équivalent à la libération, l'enrichissement des consciences.
Quels étaient les moyens de circulation à l'époque? Est-ce que la voiture était déjà très développée ici dans le Diwa?
C'était surtout la voiture chez les commerçants qui avaient besoin d'un véhicule. Et sinon, non, il y avait Monsieur Barral a été quelqu'un de remarquable parce qu'il avait une collection, mais alors de voitures de luxe. Il avait une Bugatti. Et pour la fête de Saint-Marcel, il sortait toutes ses voitures de collection, entre guillemets, dont une qui nous faisait rire quand elle passait à la fête Saint-Marcel, c'était une quadrillette Renault, c'est-à-dire une voiture à deux places, décapotable, et qui avait l'arrière qui un peu comme les Ford T, vous savez, l'arrière ondulait comme une poule qui remue du croupion. Mais sinon, les belles voitures. Je voudrais dire quelque chose. Oui, vous m'avez demandé les filatures. Voilà. La tradition protestante qui a été créée, paraît-il, par le ministre d'Henri IV, qui a relancé la culture du verre à soie. Et donc, toutes ces petites vallées, et y compris en Ardèche, la vallée de l'Eyrieux, quand vous montez la vallée de l'Eyrieux pour aller jusqu'en Haute-Loire, vous avez une collection de cheminées encore en bon état, en briques. Et à Die, il en reste une chez Audra. Donc, au parking Audra, vous avez cheminée, je ne me lasse pas de l'admirer. Donc, il y avait une chaudière pour la fameuse tranche, c'est-à-dire que sur une bille de noyer, ils arrivaient à faire, une vingtaine de tranches de 3 mm, 4 mm, c'est-à-dire le dessin du bois, qui ensuite permettait le plaquage pour faire des meubles moins beaux que le massif, mais plus à la portée de toutes les familles, de toutes les jeunes filles qui se mariaient. Salle à manger en bois plaqué, c'était parce que c'était du beau travail. Bien, c'était vraiment une époque. Vue de maintenant, je me dis, il me semble que j'ai vécu dans une époque très, très antérieure. Tellement le temps a été vite et tellement on va vite et on n'approfondit pas ni le travail, ni le travail de la terre, sauf la clairette, parce que là c'est tout à fait différent. Mais je veux dire que maintenant les gens à la campagne, ils font un autre travail, sinon c'est pas rentable. Mais c'était un beau pays. J'ai du mal à trouver les mots, mais c'était un beau pays de labeur et d'honneur.
Comment les gens se déplaçaient dans le Diwa à cette époque-là ?
Eh bien, on avait le train. Et on s'est battu pour le train. Il m'est arrivé, moi, de me coucher sur la voie. Et nous avions des cheminots, des poseurs qui travaillaient sur la voie, mais aussi qui travaillaient sur la ligne Lyon-Vennes. Et je vous assure que c'était fort. Les gens défendaient. Je me rappelle, moi qui venais d'ailleurs, je me rappelle, on parlait quelquefois dans les cafés, pas trop, mais on parlait dans les manifs. Il y avait Jean-Louis Simon et je salue sa mémoire parce que c'était quelqu'un d'attachant. Son père était cheminot et Dieu sait que le train a sauvé le Diwa de la mort, de l'isolement. Et il existe toujours, le train. Et on y veille, même qu'on est âgé. Mais le tourisme a commencé grâce au train. La propriété du Martouré, avant la guerre, pendant le Front populaire, eh bien, des wagons, des trains entiers de Parisiens, des comités d'entreprise, les congés payés, à 10, c'était quelque chose de... C'était une vraie révolution pacifique de c'était Léo Lagrange, le ministre socialiste, qui est mort au front, hein, en 40. C'est un pays de révolution humaine, dans la joie et le partage. Dit, c'est vraiment un pays où l'esprit des gens brille, scintille et respecte.
Le mode de transport par l'animal, il a existé jusqu'à quand dans le Diwa? Est-ce que vous l'avez vu?
Je trouve que le Diwa était très en avance par rapport à la plaine d'Eure et de Valence, où j'ai vu des bœufs encore, un attelage de bœufs. D'ailleurs, c'était devenu à usage de fête. C'était entre étoiles et machin. Là, il y avait un paysan conservateur. Un attelage de bœufs blanc, magnifique. Mais c'était devenu. Mais sinon, ici, très peu. Je ne me souviens pas avoir vu des charrues avec peut-être un ou deux, parce qu'il s'établissait un lien avec l'animal, que le paysan gardait l'animal jusqu'à sa fin naturelle, voyez-vous. Moi, j'ai vu un paysan pleurer parce que son cheval était mort. Mais sinon, c'était très en avance. Et sur Marignac et sur Poney, il y avait des kumas, c'est-à-dire on achetait une faux, un tracteur en commun. Je ne pourrais pas vous expliquer, mais je sais qu'il y avait les tours de garde et Saint-Julien-en-Quin aussi, il y avait la kuma. Et c'est pour ça que je vous dis, mais j'ai vécu à une époque antique. Il y avait, je me souviens, c'était le tour de la famille Untel qui avait le tracteur, la charrue, la moissonneuse, c'était merveilleux. Et puis, voilà. La Clairette s'est diffusée. Ça a été le départ d'une autre économie. Et du fait que c'était pourvoyeuse d'emploi, féminin et masculin, c'était une très bonne chose. Je voudrais dire deux mots sur la famille Buffardel, cette cave qui n'existe plus. D'abord parce que pendant la guerre, les frères Buffardel étaient des leaders du FTPF, c'est-à-dire les francs-tireurs partisans français, et qu'ils ont été assassinés par la milice. Et qu'à la libération, les deux frères, c'est-à-dire que la cave Buffardel, il n'y avait plus, il y avait un gendre. Et là, je ne sais pas, mais je crois que c'était une société secrète, les francs-maçons, qui ont fait venir de l'Est, de la Champagne, un chimiste très compétent avec sa famille. Et ça a relancé la cave Buffardel jusqu'au décès de Monsieur Leblanc, René Leblanc. Et la clairette des frères Buffardel était la clairette qui gérait la fermentation. Sinon, avant ça, les bouteilles de clairette explosaient selon la température, etc. Et c'est ce chimiste venant d'Épernay, Monsieur Leblanc, qui a sauvé, parce que la cave était tout à fait naissante, la cave coopérative, grâce à Monsieur Vérillon, conseiller général, maire de Die.
Il y avait cette filature de Monsieur Barral. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où elle a commencé à s'éteindre?
Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pu embaucher, et puis je ne peux pas vous dire, tout le monde était désolé, Et puis, c'était, comment dire, on a accepté parce que c'était au moment où on parlait de gestion moderne, de gestion. Et je ne peux pas vous dire plus. C'est quelque chose qui s'est arrêté parce que ça, la bonneterie a succédé avec le coton, a succédé à cette tradition de la soie. Olivier de Serres, ministre d'Henri IV, qui a rénové, il avait des espions qui allaient en Chine, et dans la canne, parce que c'était condamné à mort si on prenait un étranger qui rapportait des verres à soie ou bien des graines de verre à soie. Donc il y en a un très malin qui a creusé sa canne en bois ou en je ne sais pas quoi, et à l'intérieur, il a pu, au péril de sa vie, c'est lui qui a ramené de la graine de Chine. Donc ici, la soie avait une grande importance. Je vous disais que la grand-mère de mon mari avait détenu par les soyeux de Lyon les graines. Donc c'était vers le mois de février. Elle recevait une boîte, un colis par le train, et c'était la graine. On dit, c'était le terme, la graine, c'est-à-dire les œufs sur des petits carrés de soie, les œufs du bombyx, le papillon du ver à soie. Et donc, elle le mettait dans son giron pour... c'était la couveuse, vous voyez. Et alors, il y avait des gens, moi je les connus, on frappait à la porte Place du Mazel, au magasin, et c'était un petit enfant, une petite fille. « Ma maman, elle m'envoie chercher une once de graines. » Alors la grand-mère, elle sortait de son giron et elle découpait la moitié d'un petit carré de soie comme ça, avec la graine. L'enfant emportait ça. Et donc, dans chaque maison, par ici, les maisons anciennes, à Chastel en particulier, il y avait des magnaneries. Parce que le mot magnan veut dire cocon. Et donc, les gens mettaient ça dans des bricolages avec une ampoule, vous savez, c'était des couveuses. Et selon le temps, le mûrier commençait à bourgeonner. Et les enfants, après l'école, étaient envoyés ramasser la feuille. J'aimais bien ces termes. Tu es allé à la feuille ? Alors, il fallait pas ramasser la feuille et la froisser parce qu'elle fermentait et ça tuait le jeune ver. Et donc des pièces entières bien exposées à la lumière et avec des murs épais comme ça, des vitres et tout ça. Et donc je ne sais pas combien de temps ça a duré, je crois à peu près un mois et demi, deux mois. Et quand le cocon devenait gros comme mon index, c'était un événement parce que le cocon monte et il se met à briefer, la briefe. Et là, c'est un tumulte incroyable.
Vous pouvez expliquer ce que c'est le briefer ?
La briefe, c'est le cocon qui doit grossir pour pouvoir... atteindre les branches pour commencer sa métamorphose. Et donc, il mange, il change de couleur, il devient jaunâtre. Et puis, il se met à grimper sur des branches de buis, des branches sèches. Et là, il se met à déglutir le fil de soie qui l'attache. Et puis, le va-et-vient... Mais juste avant, c'est la briefe. Et je me souviens avoir été dans des familles, je me disais, mais qu'est-ce que c'est ce tumulte ? Et c'était le... Je savais, une espèce de bruit de mâchoire, mais bruyant. Et ensuite, au bout de quelques jours, on voyait ces branches sèches couvertes de cocons. Il n'y a pas plus beau. D'ailleurs, les institutrices dans les villages faisait faire ça aux enfants. Tous les enfants, vers le mois d'avril-mai, selon la saison, avaient des verres à soie. C'était leur premier travail pratique, vous voyez. Alors donc, les conversations... et puis, il y avait aussi... ils allaient chercher la feuille sur des bordures de champs. Quelquefois, les paysans les grondaient parce que, voilà, c'était toute une tradition, un savoir-vivre rural, mais spécifique, entre les billes de noyer et la briffe des cocons, des magnots. Je trouvais que c'est une richesse qui a disparu. Il y a eu aussi une période d'épidémie, de mort des vers à soie. Et ça a été raconté dans la Cévenne. Tous les pays protestants, évidemment, ont été enrichis par Henri IV entre Sully et Olivier de Serres. C'était des ministres qui ont relevé l'agriculture qui végétait dans le sans avenir.
Voilà. Vous connaissiez donc un peu cette époque encore où la soie se pratiquait ici ?
Non, je suis arrivée, il y avait tout le matériel chez nous. Et il y avait surtout dans la mémoire de mon mari, de mon beau-frère, et puis surtout dans les écoles, les institutrices, tous les instituteurs, les institutrices de tout le Diois. Au printemps, les travaux pratiques, c'était... Et l'enfant était interrogé par la maîtresse ou le maître et racontait dans ma ferme mon grand-père, ma grand-mère. Voilà, et puis il y a même une chanson, les Magnanarelles. J'ai entendu quand on fêtait les personnes âgées dans mon association de l'Union des femmes françaises, des petites vieilles qui chantaient chantaient Magnanarelles.
Les mûriers, il y en avait un peu partout.
Pardon, tous les champs étaient délimités par les mûriers. Les mûriers et les cognassiers, parce que les Bernards achetaient aussi les coins, qui servaient à la confiterie de Nyons, où c'était le père, vous savez, Ducrot et compagnie. Oui, on travaillait beaucoup avec Nyons. Et c'est une région magnifique, ce Haute-Provence. Sur les hauteurs, c'est les traditions déjà delphinales, c'est-à-dire le Dauphiné, parce que la hauteur, la neige et tout ça. Et ici, c'est vraiment la Provence. À Saint-Nazaire, le désert, les gens couramment parlaient le patois, très spécifique à la région là-haut. Mais le caractère y était, c'était des gens convivial. Il y avait un boulanger, on allait chez Arnaud, le boulanger, ben, il y avait dans la grande salle, dans la, comment on appelle ça, le fournil. Eh bien, le boulanger en fournée et tout ça, il y avait les gendarmes qui casse-croûtaient, le père machin qui faisait le pâté de grive d'un petit village à côté. Nous livrions l'aliment pour le bétail. Enfin bon, c'était super. Et j'ai oublié de dire que le coquetier achetait des lapins et que tout le monde ici vendait des lapins. C'est-à-dire, ils avaient des mères lapines, ils en prenaient pour leur consommation, et le restant, les années fastes, ils vendaient au coquetier. Et le coquetier achetait les lapins, et puis les abattait, et les vendait en gros à Grenoble en particulier, et sur Valence ensuite, à l'abattoir Valclair. Mais je trouve que c'est un trésor, j'ai eu la chance d'être dans un pays où il y a encore un art de vivre, sans vantardise, en toute gentillesse. Et je vois que la tradition, le hasard a fait que Hervé a pris la succession de Monsieur Gilloin, Lily Gilloin, qui était très important dans le quartier Saint-Marcel, qui repose en paix. Et c'était un grand monsieur, gentil, avait le sens de la fête et le sens des... Il donnait l'occasion aux enfants, aux vieillards, tout le monde à participer dans cette fête sympathique qui s'appelait la fête de Saint-Marcel, avec les cars. J'ai vu les majorettes défiler à 10. Et c'était un secret, personne ne savait ce qui se fomentait dans au garage Peugeot là-bas, il y avait de l'espace. Donc on ne savait pas le défilé de quoi était. Et j'ai vu les majorettes de 10, c'était Monsieur Vigne, c'était un grand costaud, déguisé en majorette, tous les commerçants, des joyeux drilles comme les raies, déguisés en majorette. Écoutez, c'était bon enfant. Et on ne se moquait jamais méchamment de quelqu'un.
Germaine, merci pour une partie de l'histoire de ce que vous saviez de dit.
Oui, je ne sais pas, mais je trouve qu'il faut dire merci mille fois à ce qui reste, c'est-à-dire Tonvink, mes amis Vartena de Vacher, et excusez pour ce que j'oublie, mais des gens à Poney, des gens à Saint-Julien-en-Quin, des gens à Châtillon. Châtillon aussi, c'est un lieu de culture aussi, original, bravo. Merci de m'avoir donné la parole.